Les longs formats et les bords sur Et les bords. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des longs formats sur Radio Et les bords. Merci beaucoup de nous écouter. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire. Ceci n'est pas l'histoire d'un artiste maudit, c'est l'histoire plutôt d'un héros qui a débarqué dans le monde de l'art comme une étoile filante avec ses tableaux qui racontent la rage et le corps en traits uniques, enfantins et brutaux avec toute sa poésie. Il a rencontré le succès très vite et il est mort à 27 ans en 88, un destin fracassé par le génie et la drogue. Dans les longs formats. Cette semaine, nous allons marcher sur les traces de Jean-Michel Basquiat, car il est au cœur d'un roman magnifique signé Pierre Ducrozet. Héroïka, Pierre Ducrozet, qui est invité aussi de la 29e édition du Festival du Premier Roman pour une lecture musicale d'Héroïka, avec le jazzman et DJ Gabriel González à la Soute à Chambéry, c'était hier soir. Bonjour Pierre Ducrozet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans les studios d'Et les bords et dans les longs formats. Il y a quelque chose de très romanesque chez Basquiat. Dans sa vie, votre roman retrace la trajectoire vraiment d'une comète.
Oui, en fait, il se rêve lui-même comme un héros. C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il est hautement romanesque. Déjà tout petit, il se voit comme Superman, enfin plutôt Batman. Et il va devenir le roi de New York, ce qu'il voulait être, parce qu'il a des espèces de super pouvoirs, un peu comme... Comme un héros antique. Il a une capacité à capter tout le réel, en fait, et arriver non seulement à le capter, mais à le plaquer sur une toile. Et cette capacité-là va lui permettre de faire parmi les plus grandes toiles de la fin du XXe siècle, qui sont des... c'est difficile de les décrire à la radio, mais c'est des grands formats, très très vifs, très colorés, avec un ensemble de signes, d'esquisses, de traits, de mots. C'est à la fois très désorganisé et très organisé. C'est très composé. C'est des toiles qui ont ébloui tous ceux qui les ont vues dans les années 80.
Et c'est des toiles qui ont valu tout de suite très cher, puisque Basquiat, déjà à 20 ans, avait réussi, en fait. Il était exposé dans les galeries, avec beaucoup d'argent, adulé, en même temps en suscitant beaucoup d'interrogations autour de son personnage aussi.
Oui, c'est pas du tout l'histoire d'un artiste maudit. Il est tout de suite, à 20 ans, célèbre, riche, etc. Donc ça, ça m'intéressait aussi. C'est pas du tout... l'histoire d'une gloire posthume. Ces toiles maintenant sont bien sûr parmi les plus chères du marché, mais elles étaient déjà assez tôt à ce stade-là. Voilà, il y a une trajectoire romanesque passionnante, son parcours est incroyable, ses toiles le sont aussi, et puis il y a cette densité-là de son être. Il est très complexe, très contradictoire, il est tout et son contraire. Il passe du matin à faire une toile géniale à l'après-midi être un petit con, quoi. Il faut dire ce qu'il est, voilà. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, quoi. Cette duplicité, c'est rester un petit gosse parce qu'il est mort à 27 ans, mais il a vraiment pas eu le temps de devenir autre chose qu'un enfant, finalement. Donc quand tu en parlais tout à l'heure, quand à 20 ans il devient tout d'un coup riche et célèbre. Il a des vestes comme des garçons, avec des billets qui sortent des poches. Il prend des taxis pour traverser la ville entière. Il sait pas trop comment faire, en fait. Donc il va un peu tout faire mal. Et ça, c'est intéressant aussi au niveau romanesque.
Les longs formats. Thank you. Un mot sur le titre aussi de votre roman Heroica, un titre en écho aux deux dernières toiles de Basquiat, en écho aussi à une symphonie de Beethoven, et c'est assez intéressant. Et puis, sur l'une d'entre elles était noté presque prémonitoire, l'homme meurt quatre fois.
Oui, on peut voir ça. On peut rajouter un T et ça devient Erotica. Il y a plein de possibles... Enfin, surtout quand même, après, a priori, c'est bien sûr la symphonie de Beethoven, qu'il écoutait en boucle. Elle-même est c'est une sorte de charge héroïque, donc très comme ça, lyrique, qui se rapproche du destin de Basquiat, qui est un lyrique aussi. C'est ses deux dernières toiles, bien sûr, et c'est le thème du livre, en fait, l'héroïsme. Tout simplement, c'est une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon à la fin du XXe siècle, et de vouloir être un héros. C'est une question qui m'obsède un peu, c'est-à-dire, on a grandi, enfin moi j'ai grandi, dans un monde où a priori le héros n'est pas bien vu, il faut plutôt devenir une personne sérieuse et normale. Le XXe siècle était un peu une sorte de bourreau de l'héroïsme, parce qu'au début, le début du siècle a un petit peu mal commencé, par plusieurs boucheries. Donc l'héroïsme était synonyme de mort, et il n'y a plus cet élan, en tout cas à la fin du... quand Basquiat arrive dans les années 70, il y a cet élan d'héroïsme nécessairement historiquement un peu sur le déclin. Donc lui, il a cette naïveté-là et cette ambition-là, donc je voulais voir ce que ça donnait. Et pour revenir sur la question... ces dernières toiles-là, donc c'est ça, il est obsédé par ce mot Heroica, il le marque, parce qu'il voit qu'il a accompli peut-être le destin du héros, alors qu'il voulait pas mourir à 27 ans, comme je le dis, comme tout seul dans un appartement new-yorkais, mais il y a quelque chose qui est comme ça, plus fort que lui, et qui fait qu'il finit comme un héros, un peu comme ça, tragique.
Votre roman, Basquiat s'appelle Jay, vous l'appelez Jay, et vous avez fait le choix donc de la fiction du roman au lieu du côté peut-être sec ou dur d'une biographie. Il y a des anecdotes qui sont vraies aussi. Pourquoi vous avez fait le choix du roman ? Vous en avez besoin ?
Oui, je crois que c'est ça, c'est la bonne... j'en ai besoin. En fait, tout est vrai, tout est documenté, tout ce que je dis dans le livre... est fondée sur des... Voilà, j'ai lu, j'ai regardé tout ce qui était possible de voir et d'écouter. Et ensuite, à partir du moment où je savais tout ce qu'il était possible de savoir, potentiellement, j'ai arrêté de lire et j'ai commencé à inventer des scènes. Parce qu'en fait, pourquoi un roman ? C'est parce que oui, je peux décrire les fêtes, je peux décrire ce qu'il a fait, mais je ne peux pas voir à quoi il ressemble, comment il se déplace, comment il parle. C'est le roman qui peut faire ça. Quand il est avec Warhol, voilà, on sait ce qu'ils font, etc. Mais on ne sait pas comment il se déplace dans une pièce et qu'est-ce qui se passe. Donc il n'y a que le roman pour ça. Donc c'est ça qui est passionnant dans la littérature, c'est que si je veux faire un roman sur le Che ou peu importe, il n'y a que la littérature pour faire revivre les morts. Donc elle sert à ça. La biographie, effectivement, a été plus factuelle, peut-être plus scientifique. Mais ne me permet pas d'approcher le mystère de quelqu'un. Donc là, le mystère de Basquiat, il fallait que je le mette en scène, que je le voie. Oui, donc c'était ça le... Et puis de toute façon, je suis romancier, enfin, ou écrivain, je ne sais pas comment dire, mais je ne suis pas... scientifiquement, je ne suis pas très fiable, donc j'ai pas envie de l'être. Donc je préfère... réinventer, c'est ça qui m'intéresse, inventer des formes, en fait.
De toute façon, la plus belle création, c'est aussi celle de l'imagination. Hein. Vous le disiez à propos de Basquiat, que sa plus belle création, c'était lui-même, en fait.
C'est lui-même, oui. Oui, parce qu'il a, en dehors de son œuvre, ce qu'il a réussi à merveille comme les plus grands artistes, c'est sa vie, quoi. Même si c'est aussi un échec d'une certaine manière, mais voilà, c'est comme Oscar Wilde ou plein de gens que j'admire, je sais pas, Jack Kerouac. C'est voilà, la vie est quand même la matière première sur laquelle on travaille son pinceau ou son stylo, peu importe. On dessine sa vie, donc lui il va très vite. Il est fougueux, il est passionné, il est voilà, il part dans toutes les directions possibles. C'est vraiment pour moi, c'est ce que je disais aussi dans le spectacle, c'est New York, quoi. Il a New York en lui, comme tout ce qu'il fait, tous ses gestes sont c'est comme l'incarnation de sa ville. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que dès qu'il se déplace, dès qu'il va en Europe, au Japon, il sait pas faire, il sait pas se déplacer, il sait pas comment voyager. Il est très très mauvais en voyage. Dès qu'il revient à New York, ça, voilà, il reprend le tempo, il sait comment faire. Et c'est ça qui est, comme tout chez Basquiat, qui est complexe et tragique. C'est aussi New York qui va le tuer. Parce qu'il sent bien qu'il devrait partir. La drogue le tue, enfin, à la fin de sa vie. Et c'est mauvaise, voilà, il est isolé, il est pas bien. Et il part à Hawaï. Et là, il est bien, ça, il reprend vie, mais il faut qu'il rentre dans la ville qu'il a fait naître dans cette espèce de. Et voilà, il revient et meurt en août 88.
Les longs formats sur les bords. Nous parlerons évidemment beaucoup de musique dans ce numéro des longs formats, puisque bien que la 29e édition du festival du premier roman batte son plein, vous faites quand même la part belle à la musique dans votre roman Héroïka. La musicalité déjà que vous déployez dans votre écriture, elle est très troublante. Vous coupez les phrases, vous comme samplez les mots, la ponctuation qui semble un peu possédée par un genre de free jazz des fois. Et pour vous citer, dans le roman, vous écrivez « Son pinceau ira aussi vite que le saxophone de Bird sur la toile, contrepoint, chorus, répétition, mélodie rompue et reprise, virgule, boucle, jazz, maîtrise du rythme, improvisation des formes. »
Oui, c'est essentiel. Basquiat est un musicien avant tout, enfin, avant d'attaquer la peinture. Avec des potes, ils montent un groupe de musique expérimentale. Personne ne sait jouer de l'instrument, mais on joue quand même. Et apparemment, c'était assez fascinant. Ça s'appelait Gray. Et tout au long de sa vie, bon, il va continuer à faire de la musique, à être DJ, à être passionné par la musique au cours de sa vie. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, ses toiles sont musicales. C'est ce que je disais dans ce passage que vous avez lu. Il prend des thèmes, il les mixe, il les tourne, ça revient. C'est ces mots-là qui sont comme lancinants, c'est la composition. Il a vraiment. C'est un enfant du bebop, quoi. Voilà, sa grande idole, c'est Charlie Parker. Et il a pris ça au jazz. Et moi, modestement aussi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la musique, de la phrase. Non seulement ça m'intéresse toujours, mais là, dans ce projet-là, il fallait que je me laisse envahir par le rythme de Basquiat. Donc, bien sûr, les phrases se heurtent, se coupent, on part ailleurs. Il faut aussi que dans la narration, ce soit fluide, que je me déplace. Ça peut pas être statique. Il le dit aussi à un moment donné, c'est la toile peut pas être statique alors que le monde ne l'est pas. Enfin, moi, je crois vraiment à ça. Je pourrais écrire un roman sur un mur et puis deux personnes qui sont devant, mais ça vraiment je peux pas. il faut que ça court, il faut que ça soit en lien, il faut que ça se déplace, et j'espère que ça le sera encore plus parce qu'après dans le prochain roman, mais parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse, non seulement dans la narration, que ce soit en mouvement et qu'on passe d'une chose à l'autre, mais aussi dans la prose autant que possible.
On connaît bien ce Jean-Michel Basquiat peintre. On connaît vraiment beaucoup moins ce Basquiat musicien.
Vous pouvez tous regarder ce film qui s'appelle Downtown 81, qui a été tourné en 80, au moment où Basquiat n'est pas du tout connu, à part de ses amis de l'East Village, parce que c'est une figure, mais alors c'est seulement une figure déjà dans ce petit milieu, parce qu'il est beau, parce qu'il est vagabond, il dort dans des canapés, des amis. Il a une espèce d'aura, parce qu'il danse fabuleusement bien, mais il n'est pas artiste encore, on ne sait pas. Enfin, il a juste tagué les murs de Soho avec des phrases comme ça énigmatiques sur les murs et signé du nom de Seymo. Et les gens se demandent qui c'est, et voilà, on découvre que c'est Basquiat. Mais voilà, des amis à lui disent, on veut faire un film sur ce qui se passe en ce moment là en New York 80, la folie musicale et artistique a pris la ville. Et donc du coup, tu vas être le personnage principal et tu vas jouer ton propre rôle, c'est-à-dire celui d'un artiste, d'un apprenti artiste qui se réveille un jour, et c'est Blondie qui le réveille dans un lit d'hôpital, et il va se déplacer dans la ville. Et pourquoi je vous parle de ce film, c'est parce que c'est pris sur le vif, la ville de cette année-là, après qu'il y ait une ville qui va disparaître, prise sur le vif, et du coup on voit les groupes, on voit les rues, on voit les gens. Et Basquiat joue parfois de la clarinette comme ça. Et voilà, c'est très symptomatique de ce monde-là dans lequel il a vécu, où il y avait Madonna, où il y avait Jarmusch, où il y avait Kissaring, où il y avait Warhol, espèce d'effervescence de cette ville-là. Et chacun en fait faisait de la poésie, faisait de la peinture, faisait du cinéma, faisait de la. C'est tout à fait naturel. Donc là, lui à ce moment-là, il prend une clarinette, un saxo. Ensuite, il va être aux platines, il va rencontrer tous les pionniers du hip-hop, c'est ses amis, qui descendent du Bronx, là, et le hip-hop va envahir la ville. Il est là aussi, à cette intersection-là. Il va danser au Studio 54, donc il y a le rock là, de l'East Village, il y a le hip-hop qui arrive, il y a le disco qui arrive. Il est en plein dans ça, donc ça se ressent dans son travail pictural. Jean-Michel is in the house. Throw your hands in the air. Let's freak to the beat. Get up if you want to get down. So we got the flyest music in town. You came here to dance.
See you tomorrow. Huh? See you tomorrow. You got a gig tomorrow. Yo, money, can you put me on the guest list?
Yeah, all right.
Les mots sont omniprésents chez lui. D'abord sur les murs de Soho, avec les phrases, vous l'avez dit, très énigmatiques, des genres de haïkus poétiques un petit peu à la Rimbaud sous le nom de Seymo, donc Same Old Shit. Et puis dans ses toiles aussi, et dans plusieurs langues, et avec toujours beaucoup de poésie. Il a un rapport quand même assez troublant à la poétique. Je crois qu'il lisait beaucoup Kerouac, notamment.
Il est, c'est un espèce de Rimbaud, c'est-à-dire qu'il a tout lu sans l'avoir forcément lu. Donc il lit Burroughs, il lit les poètes, il lit Kerouac. Moi ça me touche particulièrement, c'est aussi les auteurs qui ont compté pour moi. Donc il y a une photo que j'aime bien où on voit les souterrains de Kerouac qui sortent de sa poche, qui est aussi un de mes livres cultes. Et ouais, c'est un enfant des, c'est un enfant des beats quoi, de la Beat Generation. Et il va rencontrer d'ailleurs Burroughs comme toute la clique de cette époque. C'est un peu le parrain. Voilà, il est. Et oui, et ce qui est très important, c'est bien sûr le souffle de Kerouac qu'on va retrouver chez lui, mais aussi le cut-up de Burroughs. C'est cet art du collage qu'a inventé l'écrivain américain. Il va l'adopter pour ses toiles. Donc, il coupe. Il a devant lui, en fait, par terre, littéralement des livres ouverts. Il y a la télé qui est ouverte, éventuellement la radio, enfin, souvent la radio, la musique. Et des gens qui parlent derrière, parce que c'est la fête souvent chez lui, donc la soirée continue, mais peu importe, lui il travaille. Et il capte comme ça des phrases, des choses au vol, des mots. Donc c'est vraiment un art du collage. Et ces mots, il les colle sur la toile. Et il a, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est, il est. C'est extrêmement fluide sa peinture, en même temps c'est extrêmement pensé, c'est-à-dire. Bien, je mets du verre là, je mets une tête de mort, peu importe. Mais il sait où les mettre, en fait, c'est évident, quoi. C'est évident, en même temps, c'est naturel, en même temps, c'est... Il y a une place, quoi, c'est ça que j'admire, c'est qu'il y a un art de la composition indéniable et fascinant. Donc voilà, tout, et il produit à une vitesse folle, il se trompe peu, quoi. Il travaille sur plusieurs toiles à la fois. Il revient, il en rajoute une couche, bon, ça c'est fini. C'est très beau. Il y a des images dans un autre, dans un documentaire cette fois-ci, qui s'appelle The Raiden Child, où on le voit peindre. Et il danse comme il peint, en fait. C'est une espèce de danse, c'est très beau à voir.
Dans votre roman, vous parlez donc de ce garçon, de Jean-Michel Basquiat, qui respire comme un enfant, qui peint comme un enfant, qui danse comme un enfant, mais qui semble être lourd d'une sagesse millénaire. Et puis vous dites aussi que c'est quelqu'un qui capte, comme s'il avait des antennes, comme s'il était relié à quelque chose d'un peu supérieur, et comme si du coup, ben, il était ce passage entre quelque chose de supérieur et ce qu'il peint, et ses toiles, et le réel, quoi.
Ouais, c'est une espèce de chaman, en fait. C'est une espèce de d'art du lien, en fait, de capter le réel. On le capte tous, mais avec plus ou moins de... Avec plus
d'acuité.
Ou moins d'ampleur, d'acuité, ouais. Exactement, ouais. On le voit bien tous les jours, c'est... On peut le voir comme quelque chose de magique, mais finalement, c'est pas ça. C'est juste une hyper sensibilité. Et donc, du coup, on le voit bien aussi. Il le voit bien dans sa vie. Toute chose le heurte, le brusque. Quand, je sais pas, il y a des mini-trahisons sur lesquelles il devrait passer. Non, ça le détruit. Il rompt les amitiés. Il est hyper sensible. Et c'est pas possible de vivre comme ça. Ça le tue au bout d'un moment. Et c'est ça qui est... Voilà, c'est ça. Il est devant sa toile tous les jours. Et il capte tout. Mais il est tellement électrique comme ça qu'au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. La drogue aussi, pour ça, va l'aider un peu à... Pendant un moment, à équilibrer, parfois à partir, à revenir, etc. À jouer sur les cadences et sur les... Mais... oui, je pense que... À part en étant un chaman, donc professionnel, j'allais dire, et donc travailler avec ça et pouvoir canaliser sa force, c'est les puissances à l'œuvre. Sinon, c'est très très dur de vivre comme ça, c'est trop, quoi. Pour Rimbaud, ça a été pareil d'ailleurs, voilà, il explose aussi en plein vol et il part dans le désert d'Abyssinie avec les chameaux parce que il y a trop de puissance à l'œuvre. Ouais, c'est pas possible.
Les longs formats sur les bords. Pourquoi Basquiat ? Il vous fascine ?
Oui, bah, je pense qu'on peut voir dans le, que je suis pas du tout indifférent à, la, à mon sujet. Donc, ouais, c'est une passion.
Ça fait vibrer quoi chez vous ?
Bah, c'est exactement le personnage que je voudrais être un petit peu. Je pense que c'est ça. Dans le fond, le livre se finit là-dessus. Je pense qu'on peut le révéler sans révéler tout. Sur un petit garçon qui va lui-même sur la tombe de Basquiat et qui ouvre, qui sabre une bouteille de champagne sur sa tombe et qui dit voilà, peut-être que je devrais écrire un livre sur ce gars-là et peut-être qu'il me donnerait un peu de sa force, un peu de son énergie, sans parler du génie parce qu'il faut pas être présomptueux, mais et voilà, ben je me suis dit si en m'approchant de cet homme-là, de son mystère, je pouvais comme un vampire un peu prendre des petites gouttes de son breuvage, bah ce serait bien quoi. Donc ouais, il me l'a donné en fait un peu d'une certaine manière, puisque je sais pas, j'ai écrit ce livre, j'étais bien et puis après ça, il m'accompagne là depuis et d'ailleurs sa manière de voir les choses et de construire ses toiles, ça m'amène maintenant vers mon prochain roman qui sera, voilà, il m'a appris plein de choses en fait. Il m'a appris plein de choses comme d'autres gens avant, mais là, de me pencher sur, de manière romanesque sur quelqu'un, d'essayer d'approcher ses faiblesses, ses forces, etc., ça m'a... Ouais, je me suis fait un ami, quoi. Ça peut me dire.
Le roman vous habite, j'imagine, aussi aujourd'hui. Est-ce que ça se passe bien au quotidien de vivre un petit peu avec Basquiat ?
Oh oui,
ça
oui,
va?
Oui, c'est très bien. Il y a pire. Ouais. Non, c'est très très bien. J'aurais pu faire un livre sur Hitler et effectivement, ça serait plus, les journées seraient plus compliquées. Mais là, c'est très très bien. Ça pose aucun problème. Par contre, après, il faut s'en détacher, faire d'autres livres. Et puis là, il y a un petit peu parfois la tristesse d'un monde disparu que j'ai pas connu, d'une énergie collective, là, d'une ville, quelque chose d'assez unique que je, malheureusement, je n'ai pas connu, donc je me rattrape avec d'autres choses, mais c'est pas... Oui, c'est vrai que c'est une chance à côté de laquelle je suis passé, mais du coup, bah, voilà, la littérature, elle peut peut-être servir à ça, à faire revenir, ressurgir des mondes, un peu des mondes oubliés et des figures disparues. Ça, c'est bien pour ça.
Oui, et puis il faut risquer quelque chose, Pierre Ducrozet, sinon on n'a rien.
Mais tout à fait, je ne vous fais pas dire, Il faut risquer. C'est une bonne définition du roman. Il faut tenter un truc. Quand on est en train de l'écrire, on se dit ça peut complètement foirer. Hein. Ça peut complètement être un désastre. Parce que. Il y a 1000 dangers en fait, voilà, sur ce livre il y en avait plein, sur le prochain il y en aura plein.
Là, le prochain qui nous parlera de
De 2015, en Californie, au Mexique, pour aller vite, et puis de l'histoire d'Internet, puis l'histoire des corps au 21e siècle. J'aimerais bien, voilà, cette fois, essayer de voir de quoi le 21e siècle est fait, de comment ça se passe, quelles sont... les forces en présence, parce que voilà, 1980, c'est bien, mais voilà, est-ce qu'on peut avec la littérature aussi creuser le présent, parce qu'on creuse beaucoup le passé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le présent, voilà, c'est ça. Mais donc aussi, ouais, 1000 dangers, donc oui, il faut prendre un risque, enfin, c'est un peu absurde de s'enfermer dans une chambre et de faire un livre, mais là, c'est assez joyeux aussi.
Alors que nous nous rencontrons dans le cadre donc du festival du premier roman, évidemment. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre expérience de primo-romancier, telle l'expression consacrée ici. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit un roman pour la première fois, dans la tête, dans les mains ?
Alors j'essaie du coup de me remettre dans la sensation du primo-romancier. Ah bah oui, c'est une grande, je sais pas, un élan quoi. En fait, tout est... La définition de ce moment-là, c'est qu'absolument tout est ouvert. On n'a jamais fait... Enfin, j'en avais fait plusieurs de romans, mais jamais publié. Donc, toutes les formes sont possibles, tous les... Donc, il y a une espèce de fraîcheur et en même temps de naïveté un peu. qui est agréable. Voilà, à la relecture, le roman, il est exactement ça. Enfin, la relecture, je relis pas parce que c'est un peu terrible, mais parfois il m'arrive de lire des extraits en public ou quoi. Il est peut-être un peu, voilà, avec un élan un peu. Il y a des choses que je ne ferai plus aujourd'hui, quoi. Mais voilà, il y a ça. Et puis il y a le moment où on envoie son manuscrit par la poste et où on reçoit un appel téléphonique d'un éditeur de chez Grasset, donc qui me dit qu'il va publier le livre. Donc ouais, je m'en souviens bien de ce moment, de ce moment-là, parce que j'avais toujours voulu être écrivain. À ce moment-là, je reviens d'un voyage, je suis chez mes parents et j'ai cette nouvelle, et voilà, il y a une espèce de truc de boucle qui se boucle, enfin il y a quelque chose qui commence. Et depuis, voilà, 5 ans ont passé, 6, presque 6. Et puis je fais ça maintenant, je traduis aussi, j'écris différents types de livres, je donne des cours parfois, mais maintenant, voilà, c'est ça ma vie. Donc,
Elle vous plaît ?
Ah ouais, enfin je veux dire, je suis content avec ça, ouais, je suis bien. Ouais. Il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'on écrit, on ne choisit pas d'être écrivain. On choisit d'être écrivain pour écrire, mais aussi de manière un peu étrange pour le mode de vie que ça implique un peu, parce qu'il y a des figures comme ça qui font rêver, et du coup il y a une espèce de liberté dans le fait d'être écrivain. On peut être à Chambéry comme à Berlin ou à Moscou, quoi, peu importe, il suffit d'écrire, donc il n'y en a besoin de rien, dans l'ordinateur, éventuellement un stylo.
Et Pierre Ducrozet sourit. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite sur les ondes de Radio et les Bords et dans les longs formats dans le cadre de ce festival du premier roman.
Ben merci beaucoup, c'était très, très agréable.
Bonne route, chers auditeurs. On rappelle, vous pouvez trouver Héroïka aux éditions Grasset, troisième roman de Pierre Ducrozet, son premier roman Requiem pour Lola Rouge chez Grasset aussi, et puis le deuxième, il est là aussi. Vous retrouverez toutes les informations de tous les trucs très cool dont on a parlé aujourd'hui sur le site de Radio et les Bords ainsi que le podcast de cette émission. Merci beaucoup de nous écouter, on se retrouve très bientôt. Les longs formats et les Bords.
My cousin's friend wanna meet me. Saw V on TV, said she needed a sweetie. Heard he was the type to do her name in graffiti and greet her with a kiss. Straight gentlemanly Steve, a G. Whatever's meant to be is meant to be. She could slip a smile to make a nigga flip wild. Herringbone name chain, diamond chip script style with the matching bracelet. Sweats with the K-Swiss, athletic chick who run track. Hey miss, pleasure's all mine, please call me Vic.
Okay, I did a full inspection. Head to toe, we rock black denim. Flashed a grin, sweet as sin, said to him, hey, my name's Nikki. You're 20 minutes late and almost missed me. Turn off my CD, I was bumping vintage Biggie. Said I love the way you smile, but your eyes look tricky. Yo, I gotta be home by 8:30 or my mom's will kill me. She spazzes out when I'm late, plus she says that I'm too young to date. So overprotective, I wish she'd take a sedative and shit. Yeah, but that's whatever, what's your perspective? Tell me more about you, Vic.
It's love at first sight, that's the proof. He wasn't outright too thirst, but in truth, fresh as a Mayflower, face like power. He had the green light, she asked him what's a Canaanite? Flavor of the night, Sam, Sarah, and Fahrenheit.
He talked, I listened. He listened, I spoke. We walk arm in arm and split a cherry coke. Spit religion and politics, Sega and chess. Roots and culture, hip hop, skunk and cess. I caught him sneaking peeks at my breast while fronting, name dropping connects.
First started out like she was just born's friend. Used to act grown for pretend, whispering, speaking on the phone for hours on end. On the bone from just listening, and then
call me back, my mother.
Spoke the tone again. Call back and do the same thing tomorrow. If something don't give, I'll be forced to ignore her. Getting on my last nerves, forget it. All this talking shit and V ain't even hit it yet. It's uncharacteristic of the vet.
Hickey's on my neck the whole last night. I couldn't sleep. Practice the words I used to greet you. The next time we meet, think of you and feel heat. That make my cheeks blush. Close my eyes and feel your touch. Get chills when you slip me tongue. Picture me with you. Could my fantasies of teen love come true? Got me wondering how far I go to prove my mom's and everybody wrong. I miss you every time I hear a love song. And whenever you're gone, until I see you, then I feel short of breath. I think maybe I'm ready to take the next step. Yes.
Bet. I got your cab fare, dinner, and a movie. Bring a change of clothes just in case it's all groovy. Watch when I see you.
I miss you a lot, yo. How about a nightcap, maybe a bottle of mo, so V can bite your titties like a baby toddler, ho.
Oh, no, you didn't. You called me a what? Don't make me wig out. How you gonna let some shit like that slip out your mouth?
Now,
if I was there, I'd smack you when you smirk for acting like a jerk. Thought you was cool, but now I doubt the shit is gonna work. I'm not hurt, I'm pissed off. Kiss off, fuck this shit.
I know I played too much. Hey, on the way, could you please pick up two Dutch? Okay, peace, see you when you touch. I wonder if she ever had a cootie cat 8-8. Vaughn can't wait too long, stroke it on the late-late.
Wait, first let's get this shit straight.
Right.
Don't
now.
Call me out my name, I'm not the one to get played out. Niggas go figure them out, they're all the same. With a lame story, like my ex-man Mike. Got my best friend pregnant and be still trying to call me. Well, fuck Mike and fuck Vic too. I wound up on Prozac from all the shit he put me through. Only been off my prescription 3 weeks, and you got me flipping, ripping my hair out. Never thought you'd treat me like a pigeon. I'm out, it's over, I'm gone. So long.
I'd rather masturbate than fuck with Vic Vaughn.
Rather masturbate than fuck with Vic Vaughn.
Let me watch.
Rather masturbate than fuck with Vic Vaughn.
Still, so what time you gonna be here, yo? Alright? I'm gonna be waiting, yo, just holler, bring the buzzer.
Les longs formats sur Et les bords.